qu'il est encore passé, ce maudit chat ?
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz.
C'est bon.
Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission du syndicat du commerce et de la restauration de la Confédération nationale du travail, animée en direct, sans retenue ni complaisance, chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois par ses militants sur leurs 8 heures de loisirs quotidiens pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme et du syndicalisme révolutionnaire.
Édito du lundi 21 novembre 2022 du Monde Merveilleux d'après. Y a-t-il une désaffection des travailleurs pour les syndicats ? Voilà la question que nous nous posons et à laquelle nous tenterons de répondre avec nos retours d'expérience. Notre émission tend le micro à Martine, représentante du personnel CGT Infocom. Alors la tendance n'est plus à la confiance aux syndicats institutionnels. De déception en désillusion, les grèves de 95 en auront initié quelques-uns et quelques-unes. Le mouvement des Gilets jaunes nous l'aura rappelé, une défiance envers les centrales syndicales, c'est fait de jour. Les adhésions syndicales se font rares et ne sont plus choisies qu'en fonction des privilèges qu'elles promettent. Et encore, vous me direz, et les raffineries ? Je vous répondrai, mais ça reste corpo. Comment cette journée internationale de la télévision nous réorganiser syndicalement sur les ondes radiophoniques ? Vous le saurez en écoutant le monde merveilleux du travail, mais avec la carte CNTF dans la poche.
Et maintenant à nous.
La violence
va faire grincer des dents.
Si on n'était pas d'accord,
tu vas voir que c'est pas possible.
J'ai adopté le système le plus simple. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein ?
Il faut reconnaître. C'est du brutal.
Mais t'as raison, c'est vrai.
T'as raison que j'ai raison, mon pote. Et j'ai aussi raison sur autre chose en plus.
Partout où on ira, ça sentira le pourri.
Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire.
Où avez-vous appris à dire autant de conneries ?
2 ans de télé.
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
On peut dire que tu en es, hein ?
En quoi ?
Vous l'aurez compris, chers auditeurs, il y a un billet d'humeur aujourd'hui. C'est parti un petit peu tôt. On va quand même faire un petit tour de table avant. Martine ?
Bonsoir.
Infocom CGT ?
Oui.
Voilà. Eric, faire l'animation ?
Oui.
Nous apporter toutes ces lumières, toute sa science, tous ces chiffres sur le...
Les chiffres, oui.
Sur la désaffection des travailleurs pour les syndicats ?
Un sujet éminemment sérieux.
Voilà. On a Bénédicte à la technique qui est vraiment très très pressée de rentrer. Alors tout de suite, elle enchaîne jingle sur jingle. Et puis, tout de suite, un petit billet d'humeur.
C'est parti, Snoopy.
Un nouveau billet d'humeur. Je ne me suis attaqué jusqu'ici qu'à la même structure syndicale pseudo-révolutionnaire. Il n'y a pas de raison que cela change. Et pourtant, il y aurait beaucoup à dire sur la Confédération nationale du travail, dont le ciel RP est adhérent. Beaucoup de contradictions, de confusions, de rivalités intestines. On y viendra sans doute un jour. Mais malgré cela, il ne me semble pas qu'il y ait d'hypocrisie. En revanche, pour mon chouchou, la CNTSO, qui je rappelle est la Confédération nationale des travailleurs, ce n'est pas la même limonade. Vous aurez noté, CNT du travail pour les vignoles, CNT des travailleurs pour la rue de la Martinique. Comment ça s'explique ? Puisque les statuts ont la même origine. Ceux de décembre 1946, dont Pierre Bénard est l'un des rédacteurs. C'est simple, la CNT Vignoles est la continuatrice des statuts syndicalistes révolutionnaires. Pour la CNTSO, issue d'une scission savamment préparée, il fallait s'approprier des statuts légaux qui légitimeraient leur légalité, mais en modifiant, dans un propos disruptif, du travail par des travailleurs. Ainsi, il est fait le lien non pas avec Pierre Bénard, mais avec la CNT espagnole de 1931, des anarcho-syndicalistes, que je vous disais. Alors, il y a longtemps que je n'ai plus de rapport avec eux. Vous me direz, de quoi tu parles alors? Ils ont changé depuis? Sans doute, mais pas trop quand même. Hein. Il n'y a qu'à regarder les photos de congrès pour s'apercevoir que les ténors de la scission sont toujours présents. J'ai des noms. C'est noté, mais je ne les donne pas quand même. Courant novembre, la CNTSO a tenu son 4e congrès pour s'organiser et révolutionner la société, nous disent-ils. Où ils sont plus particulièrement implantés dans les secteurs les plus précarisés, nettoyage, sous-traitance, sans papier. Ça, je veux bien le croire. Les trois secteurs étant le même. Les salariés sans papier travaillant dans le nettoyage industriel pour des patrons sous-traitants de grandes entreprises. Bref, la CNTSO poursuit son développement constant, je la cite encore, notamment avec l'intégration des activités postales. Je vous en avais parlé dans un précédent billet d'humeur. Les postiers du 95 qui souhaitaient partir avec la caisse vers CNTSO. Comme ça, ils sont de bonne compagnie, puisque SO s'était approprié le syndicat de l'hôtellerie des Vignoles. Bah, passons. Ce qui m'intéresse, c'est avec qui ils vont révolutionner la société. Et comment comptent-ils le faire? Avec les travailleurs sans papier? Mais ils ont quitté un pays, un continent qui ne les nourrissait pas, pour un pays qui ne les accueille pas. Je ne pense pas que leur préoccupation première soit la révolution sociale. En tout cas, pas les travailleurs du nettoyage que je fréquente et qui ont des papiers de surcroît. D'ailleurs, le syndicat du nettoyage, lorsqu'il adhérait à la CNT Vignoles, revendiquait 500 adhérents. Où sont-ils maintenant dans les manifs? Ils devraient y écraser les Vignoles, dont nous ne sommes plus que 30, en comptant les 15 copains et copines du service d'ordre. Ah oui, le développement constant, c'est dans les CSE. De quelle manière comptent-ils révolutionner la société? En lançant une pétition aux députés pour qu'ils influent sur le gouvernement et la direction de la Poste, comme le faisait circuler le 25 septembre 2022, le secteur des activités postales. Discours disruptif, vous disais-je. Alors, dans mon premier billet d'humeur, je vous faisais part de la critique de CNTSO, que l'on pourrait traduire « soviet ouvrier », mais pas comme à Kronstadt, hein, plutôt bolchevique. De leur critique, donc, concernant le sens de l'orientation du chat noir de la CNT Vignoles, chat tourné vers la gauche, le passé. Il semblerait qu'aujourd'hui, le chat tourné vers le passé, c'est du passé. On trouve aujourd'hui, sur les tracts du secteur des activités postales, le même chat CNT sous lequel on a inscrit au blanco SO. Au-delà de la haine que je nourris envers cette structure pseudo-révolutionnaire, c'est l'exploitation d'une manne ouvrière précarisée que je déplore. Bien sûr, SO défend dans les entreprises le droit de ses travailleurs et le maintien de leurs avantages sociaux. Peut-être que les Vignoles ne font pas mieux. Mais allons-nous syndiquer dans les foyers d'immigrés pour nourrir des permanents syndicaux? Est-ce cela l'autogestion? C'est à mon sens, et celui du CLRP, une attitude néocolonialiste qui n'a pour but que satisfaire l'ambition personnelle et maniaco-égotiste d'un individu initiateur de SO qui voudrait se voir attribuer la reconnaissance tutélaire d'un Pierre Bénard. Est-ce que les adhérents en ont bien conscience? Je ne pense pas qu'on leur laisse le choix. Les adhérents les plus ambitieux sont-ils déjà sur les starting blocks des postes rémunérateurs à pourvoir, comme aux réélections des CSE? Entre la course au mandat, l'exploitation des plus précaires et l'embrigadement syndical, la bourgeoisie n'a pas à s'inquiéter de son renversement. Voilà qui va nourrir le thème principal de notre émission, j'espère, la désaffection des travailleurs pour les syndicats. Ah bon, bah, fallait lancer la musique, mais c'est pas grave. Bon, voilà, donc, non, c'est pas... on va s'écouter San Severino, le blues parlé du syndicat.
Les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord, parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long, pour faire la nique au patron, moins d'heures de boulot. Meilleures conditions de travail, les congés, les gosses au bord de la mer. Ça Ça semble simple, mais ça l'est pas. Et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés au paradis. Et Saint-Pierre sera un bon patron, pardi. Vous savez que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Le patron, futé comme un bison, trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire au débile que le jaune lui va pas au teint, arrête de faire la mouche. Et t'auras pas l'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant que votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge. Enfoiré, mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars, le plus dur, il reste à faire. Tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tout ce qui bouge. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris. Chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia, c'est à aussi. Aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, si on se laisse pas faire par les flics, si on se laisse pas faire par le gouvernement, si on se laisse pas faire par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
Voilà, donc San Severino reprend le blues parlé du syndicat de François Béranger, qui lui-même reprenait et traduisait Talk Union de Pete Seeger.
Des reprises.
Voilà. Et c'est aussi le jeu. Bon, voilà. C'est tout.
Ah oui, les arrangements sont lourds.
Ah bah c'est 2019. Ouais. Voilà.
Et puis ça permet de remettre au goût du jour, c'était pas une critique négative, ça permet de remettre au goût du jour les textes.
Bah, c'est tiré d'un album hommage à François Béranger. Tout l'album sont des chansons de François Béranger.
Alors, l'objet de notre émission, le sujet, la désaffection des travailleurs, alors il n'y a pas les salariés, des travailleurs pour les syndicats, travailleurs plus que salariés. Parce que les salariés sont qu'une partie des travailleurs, étant donné que les travailleurs privés d'emploi restent des travailleurs, même s'ils ne sont plus salariés. Par exemple. Donc, il est notable que depuis, 40 ans, depuis le tout début des années 80, il y a les syndicats, alors les syndicats... de manière générale, hein, on ne fera pas le détail, ou au cours de l'émission, connaissent une désaffection, c'est-à-dire que une diminution des adhésions, et notamment des adhésions des jeunes travailleurs. Donc ceux qui sont censés apporter d'abord l'énergie, la mobilisation, les capacités de lutter, et puis être les questions du jour. C'est-à-dire que ce qui les préoccupe maintenant, tout de suite, et qui devient, qui est l'urgence du moment. Sans oublier les questions de fond, bien sûr, les revendications historique des syndicats, travailler moins, travailler mieux, travailler tous, et puis...
Et autrement.
Et autrement. Travailler autrement. Voilà. Le quatrième pilier. Voilà. En 2013, une étude de la DARES, ministère du Travail, une étude approfondie, parce que bon, la DARES, l'étude a été publiée en 2017, les chiffres sont tous des chiffres consolidés de 2013, parce que ça demande enquête...
ça demande du temps, en du général, temps on ne peut pas faire une enquête du jour pour le lendemain.
Et donc, une enquête très longue, très fouillée, dont j'ai ici la simple synthèse, parce qu'en fait, elle fait plusieurs volumes. Et en 2013, 11% des salariés ont âgés de 18 à 65 ans. Alors, on imagine que 18-65 ans, c'est la fourchette entre le premier emploi, le premier accès à l'emploi, et puis
la
fin du travail. Donc, 11% des salariés, déclarent adhérer à une organisation syndicale. Et parmi ces 11%, simplement 30% participent à la vie syndicale. Alors déjà, c'est important, parce que c'est peut-être ce qui va distinguer notre organisation, la CNT, et en particulier le syndicat du commerce, mais la CNT de manière générale, des autres centrales syndicales, des autres organisations syndicales. Cette proportion entre les 100 adhérents et 30 simplement qui participent à la vie syndicale de manière générale, nous c'est un petit peu l'inverse en fait. C'est plutôt 70 ou 80% qui participent et 20 qui participent mais différemment peut-être.
Oui. Ça dépend des types de salariés qui syndiquent effectivement. Alors, on va rentrer tout de suite dans le... pour la CNT, la plupart des salariés qui rentrent à la CNT sont plutôt déjà plus ou moins des militants. Des gens qui ont une idée de l'autogestion, une idéologie politique, une conception de la société. Et puis, effectivement, ils rentrent dans le syndicalisme révolutionnaire, bon, à la CNT en l'occurrence, pour essayer de mettre... d'appliquer en fait tout ce qu'ils ont en tête et toutes ces pratiques différentes de la vie de tous les jours que l'on vit donc au quotidien. Mais il y a aussi justement quand ces militants vont créer des sections syndicales dans les entreprises et dans les sections syndicales ils vont effectivement en fonction du travail qu'ils vont pouvoir mener ils vont aussi convaincre des salariés qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément une idéologie libertaire, ils vont les convaincre de rentrer dans cette section syndicale. Et des fois, c'est un petit peu... c'est plutôt ces personnes, ces adhérents, qui vont pas forcément aller au bout de... Enfin, qui vont... Enfin, c'est pas qu'ils vont pas aller au bout, ça ne veut rien dire, mais qui vont pas forcément s'impliquer à fond... comme les 70% d'adhérents que tu citais, à la vie du syndicat, de la confédération, de la région et de l'international, voire.
Oui, pour les plus mobiles, on va dire, les plus... c'est quand même un peu particulier à l'international, parce que ça nécessite des qualités un peu... puis une disponibilité très...
Tout, il faut, quand tu... Tu t'investis dans la vie, dans le syndicalisme révolutionnaire. Il faut, je dirais pas qu'il faut sacrifier de sa vie personnelle, familiale, mais enfin, on fait un choix. Mmh. Et effectivement, ça coûte. Mmh. On ne va pas faire de l'autogestion en restant chez soi, quoi. Mmh.
Mais on peut faire de l'autogestion chez soi, ce qui n'est pas la même chose.
On peut en faire aussi chez soi.
Bon, alors cette baisse de l'adhésion, la DARES, j'ai vu une petite synthèse. Elle donne quelques pistes qu'on va partager avec Martine, avec Fabrice, avec Bénédicte à la technique, pourquoi pas. Quelques pistes d'explication qui expliquent cette désaffection. La désaffection, je cite, à l'égard des syndicats s'inscrit dans un contexte plus général d'affaiblissement des grandes institutions d'engagement, au cours surtout de l'entrée dans le 21e siècle. C'était très marqué après 2000, entre 1995 et 2005, il y a eu un tournant où il y avait une pointe de réengagement, et puis, après 2005, il y a eu un fléchissement. Un fléchissement, et ça correspond aussi au désengagement, mais dans les partis politiques, dans la vie publique institutionnelle, au bénéfice parfois des associations. Alors des associations qui n'ont pas, ou des collectifs. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Et ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est que le modèle classique de l'engagement militant, masculin, à prendre toutes les précautions possibles, masculin, ouvrier et industriel, a été ébranlé par la forte transformation du tissu productif et du salariat. Et ça, depuis les années 80. On a tous connu, quand j'entrais en activité, j'avais choisi une voie qui était la voie industrielle. Mal m'en a pris, parce que toute la décennie 80, c'était une décennie de désindustrialisation. Et toutes les industries métallurgiques, de production lourde, d'énergie également, ont connu une crise gravissime, avec des fournées de licenciements et de sites industriels qui ont fermé. Depuis, en fait, les seules grandes industries du secondaire classique, c'était l'automobile, qui restait encore jusqu'à la fin du siècle. Et puis aujourd'hui, il en reste plus grand-chose. Les grands parcs, les grandes chaînes de montage, des deux, trois grands groupes français, deux, maintenant il n'y en a plus que deux, ont quasiment disparu du territoire national. Donc pour l'adresse explique ça par ces deux faits qui sont des pistes bien sûr. Et le passage aussi sur le collectif, il y a une transformation du collectif, c'est-à-dire que le collectif c'est plus un collectif pour faire imager hein, mais c'est assez fort je pense, un collectif d'usine, collectif de travailleurs, ça devient un collectif sur un point, une question. Le réchauffement climatique, alors je dis ça parce que ça me vient à l'esprit, mais la sauvegarde des espèces animales, ou contre la construction d'une autoroute, ou quand mais c'est ponctuel. On va voir que il y a des noyaux de militants qui eux dans leur opposition à ces projets ont une vision globale, et donc là c'est très politique. Mais pour 80% de ceux qui viennent sur des phénomènes ponctuels comme cela, c'est simplement parce qu'on aime bien les oiseaux, parce c'est bien quand on veut garder la plage propre ou la nature, préserver la nature, etc. Donc on n'est pas sur du militantisme, on est sur de l'associatif de conjoncture.
Alors ça peut être du militantisme quand même.
Oui, oui, oui.
Parce que de toute façon, il y a quand même des mouvements. Il faut quand même se mettre au labeur. Mmh. Hein, ça ne se fait pas depuis chez soi. Alors, c'est vrai que le syndicalisme, en général, quand on y entre, on est plein d'entrain. Hein, on veut révolutionner, quel que soit le syndicat, hein, d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on veut un petit peu tout révolutionner. Au bout de 10-15 ans, tu vois qu'il n'y a pas grand-chose qu'à avancer. Alors pour nous, en plus, les syndicalistes révolutionnaires qui voulons faire la révolution sociale, c'est vrai qu'au bout de 15 ans d'autogestion, t'es un petit peu rincé déjà. Mmh. En plus, tu vois que ça va pas forcément s'arranger tout de suite. Il y a sans doute des militants, effectivement, qui vont quitter... il y en a eu, j'en ai connu, qui vont quitter la sphère syndicaliste révolutionnaire ou purement syndicale pour se consacrer à des associations de vivre autrement, alors qu'ils vont s'attacher à la sauvegarde de l'environnement, à mettre en place des scopes ou des associations pour le pour la survie des certaines espèces animales. Effectivement, peut-être pour eux, c'est peut-être plus du concret, puisque effectivement, la révolution, ils se sont dit, la révolution sociale n'est pas arrivée dans les 5 ans où j'ai intégré le syndicalisme révolutionnaire. Et ben là, je vais dans le concret où je vais essayer de toucher peut-être plus particulièrement
pour obtenir un résultat,
quoi. Obtenir du résultat, voilà, aider des gens, je sais pas. Il y a peut-être aussi c'est pas une frustration, je dirais pas que c'est une frustration, mais peut-être une perte d'illusion, d'espoir, et du coup essayer de rentrer dans ce qui leur paraît être du concret.
Martine,
oui.
D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on syndique moins? Et autre élément, l'âge moyen des syndicalistes a beaucoup augmenté. Aussi, ça c'est un facteur, c'est une moyenne hein, bien sûr, il reste toujours des jeunes dans les syndicats, heureusement, on peut en témoigner, nous la CNT, mais l'âge moyen a beaucoup augmenté. Ça,
Oui, alors la désaffection des salariés pour se syndiquer, elle est simple en fait à comprendre, c'est la peur de perdre son emploi, la peur d'être stigmatisé, d'être placardisé dans l'entreprise. Après, on peut effectivement se syndiquer en restant, en avançant masqué, c'est-à-dire que bon, tu adhères au syndicat, mais tu n'as pas de mandat syndical, donc de toute façon, ou tu n'es pas un élu, donc tu ne peux pas intervenir, tu ne peux pas signer d'accord, etc. Donc tu restes masqué, mais du coup, ça ne fait pas bouger les choses. Du coup, tu es inactif, c'est peut-être, ça explique aussi, peut-être aussi pourquoi il y a 30% d'actifs, en fait.
Dans le syndicat, mais dans l'entreprise. Ils peuvent très bien ne pas être actifs, être masqués.
Et que font-ils alors dans le syndicat? Ils font quoi, du tract?
Ils participent à des campagnes, de tractage, effectivement. Ils font sur des piquets de grève, ils vont aider, soutenir des camarades qui sont en lutte. Parce que c'est plus facile, finalement, de soutenir de l'extérieur que d'être soi-même, surtout quand on est seul dans sa section syndicale, ou qu'on est deux ou trois, et qu'on a le patron en permanence qui est là pour, et c'est pas lui directement, mais il a tous ses services bien intentionnés qui viennent en permanence te casser les pieds, quoi, hein. Que ce soit le service RH, le service comptabilité, le service paye, le service. Mais. Effectivement, alors ça on l'avait noté, la peur c'est quelque chose, oui, tu le soulignes.
Ça c'est la première des causes, alors, je te dis. Après, la deuxième des causes, c'est à quoi ça sert? Est-ce que moi j'ai un bénéfice tout de suite? En fait, on est arrivé dans une société de consommation où maintenant il faut tout de suite consommer et qu'il y ait un retour sur investissement rapidement, hein, que ça soit efficace, tu vois. Donc là, je me syndique, j'adhère à un syndicat, ok, donc j'ai des cotisations à verser tous les mois. Qu'est-ce que ça va m'apporter, quoi? Est-ce que vous êtes opérationnel dans... est-ce que vous pouvez intervenir pour que mon salaire augmente, pour que j'ai une promotion, pour que je sois... pour que ça me serve, en fait, dans l'entreprise, que tu restes, que ça m'apporte du positif, mais enfin, sonnant et trébuchant, je dirais que c'est... là, tu vois, et que ça m'apporte aussi la sécurité de l'emploi, pas forcément, parce que bon, quand on est jeune... on a tendance à rester 2 ans, 3 ans. On n'est pas forcément envie de s'installer dans l'entreprise pour diverses raisons, hein, parce que voilà, il faut que ça bouge, hein, tu vois. Mais il faut quand même, enfin, il faut que ça soit une décision d'eux-mêmes de partir, tu vois. Et dès que tu commences à te syndiquer et que ça se sait, forcément, t'es placardier, t'es absolument pas protégé par qui que ce soit, ni par des lois, ni par le syndicat non plus, il est complètement impuissant par rapport à ça. Alors il te dit non, mais si vous arrive quelque chose dans l'entreprise, etc., on est là, on a l'avocat qui vous défendra, on connaît les lois, en cas de litige avec l'employeur, licenciement, on vous accompagne, etc. Oui, mais non, mais si on syndique en se disant je vais trouver une écoute quand je serai licencié. Quand on travaille, c'est pas pour se dire tiens, moi, je vais être licencié demain, tu vois. Donc c'est difficile. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle tu vois.
Après, la troisième raison.
Voilà, voilà.
Et la troisième.
Et ensuite, en fait, t'es placardisé et de toute façon, ta carrière est finie dès que ça c'est quoi. Ça c'est clair et net quoi. De toute façon, et tu peux, même si tu fais une action. Là, j'ai entendu parler il y a pas longtemps d'une personne qui avait été placardisée pendant, je sais pas, 20 ans, tu vois. Donc elle a réussi à me faire un dossier. Ensuite, elle est arrivée devant le juge et le juge, elle a gagné 3000 euros. Je le croyais pas. J'ai dit, mais c'est rien. Enfin, tu vois, tout le monde s'appelle pas Bernard Tapie. pour gagner beaucoup d'argent devant monsieur le juge. Enfin, tu vois, c'est hallucinant, quoi. Je me dis. Oui, non, mais c'est la lutte. 3000 euros, je disais. Mais alors, elle a été placardisée pendant 20 ans. C'était comme ça, c'était. Alors, je donnerai pas les noms, etc. Mais c'est. Enfin, j'étais. Tu vois, tu peux pas. Donc là, c'est voilà. Là, enfin, en France, en tout cas, qu'est-ce que propose un syndicat? Qu'est-ce qu'il propose? Pas grand-chose, en fait. À part la prise de risque d'être placardisé, licencié, enfin, voilà, et puis stigmatisé, enfin, tu vois. Et en plus, il faut payer pour ça, la blague. Donc, tu vois, c'est compliqué, hein. Non, c'est. En fait, rien ne protège en France. C'est pour ça que. D'ailleurs, après, j'ai fait une étude comme ça pour voir un petit peu comment était la syndicalisation en Europe. On arrive en queue de peloton quand même.
On passera à
8%
à une comparaison ensuite.
Oui, on passera à une comparaison ensuite, mais il faut se poser des questions, quoi, tu vois, par rapport.
Mais justement, on va passer aux questions dans un deuxième temps. Fabrice. Ah,
moi, je me dis aussi. La peur, c'est un bon prétexte aussi. Sans doute, il y en a qui ont peur, mais enfin, bon, ils ont peut-être peur de traverser la route aussi. Alors, pas dans le sens macroniste où tu traverses la route, tu changes de trottoir pour trouver du boulot. Mais enfin, bon, il peut t'arriver tout et n'importe quoi tout le temps. Quand j'étais plus jeune, et j'étais pas syndicaliste, je vais vous le dire, même pas syndicaliste, il m'est arrivé dans des conflits, dans des boîtes. Je travaillais c'était en province, chez des artisans, mais on était une trentaine. Donc, quand même. Ouvrir ma gueule quand il y a quelque chose qui n'allait pas, parce que je voyais bien que le groupe, c'était le groupe de travailleurs était mécontent, et donc ils sont allés voir le patron, mais devant le patron, tout le monde s'est liquéfié. Donc moi, je débutais, en plus j'étais jeune.
C'est bien de la peur.
Mais n'empêche que moi, je suis intervenu.
Oui.
Alors, peut-être que j'avais pas conscience effectivement de ce que je risquais, mais bon, ça n'a pas été très loin de toute façon, parce qu'après, quand t'es pas suivi, c'est pas la peine d'ouvrir ta gueule. Mais je trouve que c'est un bon prétexte aussi de dire j'ai peur. Moi, j'ai souvent connu ça quand j'ai commencé le syndicalisme, donc il y a une vingtaine d'années. Les gens étaient, je m'y connais pas assez pour le faire. Et puis les plus vieux, c'est, nous, on a fait notre temps, on vous laisse à vous maintenant. Donc voilà, il y a toujours un prétexte pour pas le faire.
Oui, ça demande de l'investissement et du travail.
Alors, en revanche, je crois que ce qu'on peut mettre au compte de la désyndicalisation, c'est le fait de pas avoir de transmission syndicale. Comme tu disais tout à l'heure, les gros centres industriels, se réduisent. Il y a de moins en moins de monde. Effectivement, il y a peut-être plus de transmission syndicale.
De tradition syndicale.
Voilà, il y a aussi plein de petits. Il peut y avoir des start-up, des entreprises qui se créent, avec des salariés qui intègrent ces entreprises, et effectivement qui n'ont pas été en contact avec des syndicalistes, et du coup qui n'ont pas forcément l'idée de se syndiquer, ou de faire vivre le syndicalisme. Donc il y a aussi cet émiettement un petit peu de structures. Puis alors, l'ubérisation. Alors. Évidemment, au bout d'un moment, l'ubérisation, les plus anciens et puis qui ont commencé, hein, et qui se rendent compte qu'effectivement, il n'y a pas d'avenir, leurs conditions de travail sont déplorables, ils vont finir par se grouper, essayer de développer une dynamique pour la reconnaissance de leurs droits, de leur intérêt, acquérir des avantages. Mais en fait, c'est toujours des syndicalistes qui vont recommencer. À zéro. Alors évidemment, s'ils rentrent à la CGT, parce qu'on va pas dire qu'ils rentrent à la CNT, mais s'ils rentrent à la CGT, ils vont quand même pouvoir bénéficier du savoir des anciens. Mais au départ, ils repartent de zéro. Mmh. Et donc, je crois que c'est une multiplication des petites entreprises comme ça. Et bah, à chaque fois, tu recommences tout. Donc, bah, ça ne favorise pas l'implantation syndicale et
le combat.
Le combat et la transmission. Mmh. Donc, il faut un petit peu de temps.
Et c'est vrai que c'est le mythe de Sisyphe, hein, le syndicalisme. Ouais. C'est que tu pousses un rocher, tu reviens sur les pieds, tu remontes, tu repousses ton rocher, il redescend. Enfin, je veux dire, pour la plus. Oui, mais sans. Oui, ouais, c'est ça.
Alors, il y aurait aussi une autre chose qui, à mon sens, va favoriser la désyndicalisation. Alors, c'est dommage parce que tu as commencé à partir de 1980. Mmh. Je pensais qu'on aurait peut-être pu remonter un petit peu plus tôt.
Je peux.
On peut, mais c'est vrai qu'à la limite, il y avait peut-être un petit peu plus de monde à la création de la CGT, hein, jusque 1910, peut-être 1936, voire 40, les années 50. Il y avait peut-être aussi un petit peu, enfin, peut-être à partir des années 50, justement, ça commençait à boiter. Il y avait peut-être un petit peu plus de monde parce qu'il n'y avait que les syndicats pour défendre. Mmh. Aujourd'hui, il y a dans les entreprises, il a été introduit aussi les comités d'entreprise, les délégués du personnel, CHSCT, maintenant regroupés dans un CSE. Et ça aussi, ça favorise malheureusement la désyndicalisation. Parce qu'il suffit qu'une section syndicale se déclare pour que les salariés et remportent les élections, même s'ils sont tout seuls à se présenter. Donc ils remportent, ils ont des sièges, les élus. Siège au CSE, sont en contact avec le patron, et du coup, les autres salariés, c'est aussi le prétexte de dire bah, de toute façon, on a élu des représentants, c'est à eux de faire le boulot. Et eux, ils n'ont pas envie de s'engager. Je pense, franchement, l'idée de la révolution, c'est terminé, là, pour l'instant. Hein. Moi, je la souhaite. Je la souhaite. Hein. Ça fait déjà quelques années que je la souhaite, des dizaines d'années que je la souhaite. Mais je suis quand même bien obligé de me rendre compte que. Ouf, c'est dur. Même s'il y a vraiment des explosions comme les dernièrement les gilets jaunes, c'est plus une révolution politique qu'ils souhaitent plutôt qu'une révolution économique, enfin pas économique, enfin, je veux dire, axée sur le terrain économique et puis renverser vraiment l'ordre des choses. C'est plutôt le remplacement de ouais, c'est pas le système qui va le mettre à bas, en fait. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Même s'il y a eu des expériences intéressantes d'autogestion sur des ronds-points. Je nie pas. Donc,
Encore une fois, c'est un nouvel apprentissage, c'est ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Les gilets jaunes, c'est une nouvelle forme d'apprentissage de lutte et de lutte collective. Sauf que à partir de personnes qui ne sont pas des syndicalistes, qui n'ont pas l'habitude, qui sont plutôt individualistes à la base, et qui sont fédérés par la nécessité, à un moment donné, la nécessité d'avoir de l'essence pas chère, de plus. Bah, vous voyez, ça a commencé comme ça, hein, de lutter pour pouvoir aller travailler, parce que s'il n'y a pas d'essence dans la voiture, je ne fais pas mes 40 km pour traverser la campagne, parce que c'est aussi ça, hein, on habite de plus en plus loin parce que c'est pas cher, et puis finalement, il faut quand même aller bosser, et on est payé à couler en spière. Donc c'est ce qui, à un moment donné, a fédéré toutes ces personnes. Mais c'est voilà.
Ils ont inquiété personne. En
fait. Et oui.
Ils défilaient le week-end.
Ils ont foutu la trouille au gouvernement.
Oui.
Quand même,
hein. Et tu sais pourquoi ils ont fait peur au gouvernement? Parce que à la différence des syndicats, ils n'étaient pas organisés.
Mais justement.
Ils n'étaient pas organisés et ça pouvait se terminer comme une prise de la Bastille. Une prise de la Bastille. Après, tu sais pas ce que tu fais de la révolution en général. Alors, tu vois, historiquement, toutes les révolutions ont été récupérées par la bourgeoisie. Hein, toutes. 1789, qui est une escroquerie monumentale. 1830, 1848.
1871, ils se sont fait écraser la gueule.
Ils se sont fait écraser parce qu'ils n'ont pas été récupérés. Mais la bourgeoisie a dit, nous, on a des canons et on va vous laminer le babuf. Donc, et ça s'est passé comme ça.
Plutôt les Black Blocs qui ont semé la terreur, en fait. Dans les manifestations de Gilets jaunes, mais en tant que Gilets jaunes, défiler et être posté sur les ronds-points, on voudrait que l'essence soit moins chère, et après, qu'est-ce qui se passe? Ça a inquiété personne,
Je te rappelle qu'on a quand même participé à des rassemblements de Gilets jaunes, quand on était jeune, à Rivoli.
Au Tivoli, oui, on en croisait, oui, c'est vrai.
Bah oui, on est allé.
Enfin,
on était...
Parce que tu avais l'impression qu'ils faisaient peur et qu'ils ont fait
peur.
Parce que ça fait masse.
Ça fait masse. Ça fait masse et puis c'est incontrôlable.
Mais pourquoi ça n'a pas marché alors?
Parce que tu viens de le dire, c'est aussi parce qu'il y a un moment donné, la puissance de la répression a été telle qu'il suffisait simplement qu'un groupe de gilets jaunes désespérés, prennent des armes et se retournent contre la police et tuent, je ne sais pas moi, une quinzaine de policiers, s'emparent de leurs armes et entraînent avec eux, parce qu'une foule, c'est terrible, une foule. Hein. C'est pas un groupe organisé qui a un service d'ordre, qui est structuré intellectuellement, culturellement, politiquement. C'est violent, une foule. Hein. Il suffit d'avoir un enchaînement comme ça et l'euphorie du moment, bah, ça y est, c'est parti. On marche jusqu'à Matignon, jusqu'à l'Élysée, et puis le mot d'ordre, et puis ça galvanise. Et puis après, on est des milliers, on est voire des centaines de milliers, et c'est fini. Je veux dire, faut jamais oublier qu'il y a un événement qui n'est pas révolutionnaire, qui est contre-révolutionnaire, le 6 février 34. Le 6 février 34, l'Action française aurait pu renverser la République. Elle avait les moyens et restaurer la monarchie. Simplement, qui a décidé qu'à un moment donné, il fallait arrêter parce que l'intérêt, finalement, c'était pas de laisser la foule, parce que derrière l'Action française, il y avait toutes sortes de groupuscules qui n'avaient pas les mêmes intérêts que l'Action française. Et l'Action française s'est dit, à un moment donné, bon, si on fait passer aux troupes le pont, il y aura des morts, on va passer quand même, parce qu'en face, ils tiendront pas. T'en tues 200, 300, 4000, et t'en as 10, 15, 20, 30 000 qui vont passer le pont et qui vont écraser les forces de police. D'accord? Et qui vont envahir l'Assemblée, qui vont tout casser. Ils vont prendre le pouvoir, ils vont lyncher tout le monde, enfin, il va se passer des choses. Sauf que l'Action française aurait été débordée. Et Maurras, bah, je pense que, d'abord intelligemment, parce que ça évitait de tuer des personnes, déjà, mais il a dit non. Il a stoppé le mouvement. Et tous les autres derrière, les Croix de Feu, toutes les organisations de droite nationaliste revancharde, ont pas osé aller sans être guidés par... Parce que Maurras, c'était quand même...
sans avoir un leader voilà, charismatique.
Exactement, oui. Et c'est ce moment d'hésitation qui a fait que la préfecture de police a réussi à renverser la situation. Mais il ne suffit pas grand-chose. Hein. Maurras se dit, ok, allez-y, c'était fini. Quoi. Alors après, ça n'aurait peut-être pas été la monarchie, ça aurait été un état dictatorial, enfin une espèce de Napoléon bis, quadrus, je ne sais pas quoi, là, autre chose. Quoi. Mais on n'était pas loin. Et les gilets jaunes, franchement, ça a foutu la trouille à tout le monde, au gouvernement, je pense. Et c'est pas les rodomontades de monsieur, je sais plus comment il s'appelle, là, celui qui est devenu, qui était ensuite ministre de l'Intérieur, et puis, de monsieur, qui viennent me chercher. Enfin, il a dit un truc comme ça, le président de la République.
Oui, il a dit ça.
Hein, qui viennent me chercher.
Oui, ça fait l'objet d'une chanson après.
Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait.
Viens te chercher chez toi. Ouais.
Et très franchement, ils l'ont pris au mot. Ouais. Et là, je pense qu'il a dû réfléchir à tourner sa langue.
Je vais peut-être arrêter de dire
des bêtises. Mais oui.
Ça les inspire.
Exactement. Mais c'était un. Moi, je pense qu'on est passé à côté de. Peut-être quelque chose de terrible, j'en sais rien, peut-être de terrible, hein, parce que inorganisé, pas pensé. Alors, je reviendrai sur éventuellement sur des retour. Enfin, je reviendrai sur des passages. J'ai déjà évoqué les révolutions, mais je reviendrai sur les passages effectivement d'organisation ouvrière, alors que ce n'était pas les syndicats encore, c'était des proto-syndicats, parce que les syndicats sont apparus quand même assez tardivement dans le 19e siècle, mais ça ressemblait à des associations de travailleurs, en tout cas, localement, qui se groupaient pour à commencer par, alors c'était pas des travailleurs forcément défavorisés complètement, c'était pas l'open prolétariat, mais les canuts, novembre 1831, c'est un exemple de, à un moment donné, on n'en peut plus, on se soulève, parce que les soyeux, qui étaient des bourgeois, voulaient leur imposer un tarif. Et on, ben oui, mais on meurt de faim si on vous vend nos productions à ce prix-là. Ben, on s'en fout, nous. Puis on ira acheter en Italie. Et puis là, ils sont tout, ni une ni deux, paf, ils sont descendus. Et c'est l'État, pour défendre la bourgeoisie des soyeux, qui a envoyé ses soldats pour mitrailler pour massacrer la population, hein, parce que là, on n'a pas fait dans le détail.
Non, bah c'est bien que tu nous parles des canuts, des Italiens, ça nous ramène à l'international, et puis aux bêtes de somme que nous sommes.
Je viens de recevoir la lettre, presque anonyme, juste signée, qui annonce qu'on va nous mettre à la porte, nous les derniers. On restait quoi? Une trentaine dans les trop vastes ateliers. Chômage, deux jours par semaine et l'angoisse d'être viré. Il paraît qu'au Brésil, le sang des ouvriers coûte moins cher, même qu'ils disent merci quand on leur donne une paix de misère. On croyait vivre comme des hommes, on n'est que des bêtes de somme. Dans nos doigts naissaient des merveilles, je n'ai rien oublié depuis. On faisait des équipes et des veilles, tout ça pourquoi, tout ça pour qui? Déjà dans les rues du village, on ne voit plus que des vieux traîner. En souriant, ils disent, à notre âge, on sait que l'on nous a trompés. Trimer une vie tout entière, bâtir la maison, la cité, avec ça le droit de se taire, à la fin voir tout s'écrouler. On croyait vivre comme des hommes, on n'est que des bêtes de somme. Jean-Paul retrouvera sa France, l'Italie attend Mario. Manuel en Espagne pense trouver quelques petits boulots. C'est comme après une défaite, on se disperse au vent qui pleure. D'autres, bien sûr, fortune faite, sont partis vers des cieux meilleurs. Déjà les usines sont vides, le crépi tombe et sur les murs, la pluie a dessiné des rides. Faut apprendre que rien ne dure. On croyait vivre comme des hommes, on n'est que des bêtes de somme. On croyait vivre comme des hommes, on n'est que des bêtes de somme.
Eh bien, Michel Buller nous quittait le 7 novembre 2022 à Lausanne. Il nous rappelait que l'exploitation est internationale et que le salariat n'est qu'esclavage moderne. Voilà, c'est un petit hommage à donc, Michel Buller, ce chanteur vaudois. Qui est, bah oui, mais bon, il est mort. Voilà, ça date de 87. C'était bête de somme. Voilà. Ah bah, ça vous la coupe.
Ah bah, c'est gay.
Bon, ouais, alors, dans les... Je crois qu'aussi, dans la désyndicalisation, il y a aussi toutes les... Est-ce qu'on peut appeler ça des trahisons? Sans doute. Pour ceux qui se rappellent, qui ont connu, en tout cas, les grèves de 95, des grèves, donc des mouvements qui sont partis de la base, et qui ont duré plusieurs mois, et qui ont été quand même récupérés par les centrales syndicales, et surtout pour freiner des quatre fers, récupérer et freiner des quatre fers, et puis, en fin de compte, mener à pas grand-chose. Donc, je sais pas, dans les chiffres de syndicalisation de CGT, CFDT, est-ce que c'est pas à ce moment-là aussi que la CGT a commencé à perdre quelques militants, pas que des adhérents, mais des militants, et que justement la CFDT finit par prendre le devant de la scène.
Mais je crois que tu diras ton point de vue, parce que c'est intéressant là-dessus, Martine. Moi, je pense que les IRP, c'est une invention pour dévitaliser, une invention du patronat et de l'État, c'est la même chose d'ailleurs, pour dévitaliser les OS.
Les organisations syndicales, voilà, pour les non-avertis.
Et que la surmultiplier en 2018 à ce système, c'est la création synthétique du CSE.
Mmh. Ouais.
Parce que là, si t'es pas au CSE, tu n'existes plus. C'est la condition sine qua non pour avoir un délégué syndical.
Ça remet en cause déjà la liberté syndicale.
Bien sûr.
Parce qu'en plus, pour ceux qui auraient fait des accords sans avoir introduit... je me souviens plus, c'est un décret qui était sorti après la création des CSE. Mmh. Qui a introduit le fait de pouvoir se représenter multiples fois, hein, parce que les CSE, tu es limité à trois fois, ça remet quand même pas mal en cause la liberté syndicale. Sachant que ce sont souvent les mêmes qui... nous, on est pour la rotation des mandats, mais la réalité, elle n'est pas là non plus. Et on a déjà fait la rotation des mandats dans les sections, on a vu ce que ça a donné, merci. Donc des fois, effectivement, il y a, je ne vais pas dire un leader charismatique, surtout si je parle de moi, parce que ce n'est absolument pas le cas, mais il y a des personnes qui sont un petit peu plus motivées que d'autres, ouais, qui vont effectivement donner une dynamique à la section syndicale, et le fait que tu ne puisses plus te représenter au bout de trois fois, si tu veux faire une longue carrière dans ta boîte, ouais, ça pose problème. Bon, d'autres manières de se protéger, mais... Oui,
d'où ensuite tu n'es plus protégé, donc tu risques ta peau, effectivement, parce que le patron va te désinguer dès la fin de ta protection.
C'est ça.
Ouais. Alors, ça explique, moi, à mon sens, ça explique aussi ce passage, ce glissement. Là, il y a aussi le fait que la société... l'économie de plus en plus tertiaire. Et ça explique aussi, la CGT, c'était très...
secondaire.
Les usines, le secteur secondaire.
Oui, hein. Industriel.
Exactement.
L'ouvrier.
Voilà, l'ouvrier.
Oui, toutes les usines qui ont été localisées.
Oui, et donc le passage au tertiaire, c'était le glissement vers l'individualisme en même temps, et vers une structure... la CFDT, ça correspond tout à fait à ce que devient la société française, pour se limiter à la France, du tertiaire, de l'individualisme, de la précarisation, on n'en a pas parlé, mais les jeunes sont très précaires. Hein. 35% des 18-29 ans sont dans un emploi précaire. Des 18-29 ans, les travailleurs de 18 à 29 ans sont en emploi précaire. 35%
oui,
aujourd'hui.
Enfin, ça en laisse pas mal pour ces syndiqués qui travaillent, hein, tu vois.
Oui, mais enfin, c'était pas le cas il y a 30 ans. Mmh. C'était pas le cas il y a 30 ans. Et là, on va vers ce que tu disais tout à l'heure, l'ubérisation, le fait de pas. Tu disais, c'est pas grave, je choisis je suis là deux ans, et puis après, je vais partir ailleurs.
Ils s'investissent pas.
Il y a pas mal de turnover aussi. Oui. Donc, effectivement, quand ta vision est de participer au turnover parce que tu veux changer de boîte, parce que soit tu veux acquérir de l'expérience ou tu veux pas t'enraciner dans une entreprise parce que tu estimes que tu es trop jeune et puis que tu peux faire tes preuves partout. Pourquoi faire du syndicalisme ? Parce que le syndicalisme, c'est quand même du long terme. Déjà, si tu t'engages dans les... Puisqu'il faut passer par les CSE aujourd'hui, quand tu t'engages, c'est un engagement de 4 ans. Donc effectivement, si tu pars tous les 2 ans... Mais effectivement, quand on est jeune, moi-même, je l'ai été... Ouais, je faisais même des fois qu'un an dans une boîte. Hein. C'est, ouais. Toi, tu changes. Ah bon, quand tu as la possibilité de... Mais... C'est après, quand tu commences à prendre de la bouteille, que tu t'accroches là, ton siège.
Ce que je veux dire, c'est qu'il devrait y avoir plus de protection, quoi, des adhérents. Pour l'instant, les personnes protégées sont les délégués syndicaux, les élus. Mais les adhérents, ils ne sont pas forcément élus, tu vois. Donc pourquoi ils...
Ouais, mais les adhérents, ils ne se font pas connaître, forcément.
Oui, voilà, bah alors à ce moment-là...
Non, mais ils participent à la vie de la section. Ils participent à la vie de la section. C'est eux qui vont donner, effectivement, une impulsion. Dit, bah, voilà, nous, ils réfléchissent ensemble. Et disent, bon, bah, toi, tu es notre porte-parole. C'est toi qui vas porter notre parole. Mais nous, ce qu'on a décidé ensemble... voilà, tu vas porter la parole de ce qu'on a décidé ensemble. Point. Ça sert à ça aussi. C'est de comment une personne va être désignée pour... parce qu'en fait, c'est la section syndicale qui peut désigner aussi celui qui va être le plus apte à affronter le patron, à argumenter, à avoir une vision juridique. C'est tout l'intérêt aussi de travailler en collectif.
Oui, mais
parce qu'il y en a qui vont pas se spécialiser, mais en avoir plus de facilité avec le langage juridique. Mmh. Les autres, plus de facilité dans le dialogue et puis ou dans la argumenter.
C'est ce que tu fais de façon, Martine.
Oui. Ce qui est compliqué, c'est que ça, c'est un travail qui peut être fait par un CSE, comme tu disais, pas forcément syndiqué. Il n'y a pas de représentativité syndicale. Et même quand il y en a une, il y a toujours la possibilité au patronat de dire ah ben non, je ferai une charte. En fait. Je me passe des accords et je vais faire une charte, la fameuse charte sur le télétravail, par exemple. Tu vois, c'est d'actualité, ça, pendant le Covid. Même la charte pendant le Covid, tu vois. Tout est passé unilatéralement, syndicat ou pas, dans l'entreprise, tu vois. Donc, disons qu'ils ont les pleins pouvoirs. Donc, je me mets à la place des syndiqués. Qu'est-ce que vous m'apportez, en fait, tu vois?
Oui, mais alors, en plus, justement, alors, effectivement, on va rester un petit là, peut-être plus dans la théorie. C'est vrai que tu as dit qu'on pouvait, aux élections de CSE, au deuxième tour, des non-syndiqués pouvaient se présenter au CSE, au poste d'élu. Mmh. La différence avec les syndicats, et là, pour ça que je dis c'est de la théorie, c'est que les syndicats, quand même, transmettent un certain nombre d'informations. C'est le syndicat aussi qui, quand tu fais appel à lui, qui va pouvoir te dire s'il y a un problème juridique, si... et puis, il y a le protocole, le PAP, hein, le PAP, protocole d'accord préélectoral, qui est signé quand même par les syndicats. Donc, quand il y a une présence syndicale, ils peuvent transmettre, effectivement, l'expérience des camarades qui ont vécu la vie des CE, des CSE. Que tu ne vas pas retrouver, effectivement, chez les non-syndiqués qui se présenteraient au deuxième tour. Bah, c'est là, effectivement, là, tu vas avoir plutôt un agrégat de salariés qui sont sans doute bien intentionnés, mais qui ne vont pas savoir défendre quoi que ce soit. Je reste aussi dans la théorie, parce que tu peux avoir des types qui s'intéressent au code du travail. Je n'en connais pas beaucoup, moi, dans mon secteur, mais il peut y en avoir. Donc, effectivement, pouvoir apporter quelque chose. Mais le syndicat, il va apporter autre chose que juste du juridique, pardon, ou des avantages sociaux ou de la biscuiterie. C'est tout le savoir aussi, et puis la revendication collective pour le bien, pour le métier.
Oui, alors ça, c'est un problème, la revendication collective.
Le collectif, oui.
Le collectif, c'est un problème, parce que d'abord, on est dans un monde individualiste, et même, il y a même des formations de management qu'on apprend dans les écoles de management. Comment, d'accord. Comment individualiser les salariés pour pouvoir plus les manager, tu vois, et les empêcher de tomber dans le collectif, justement.
Justement, c'est le rôle des syndicats.
Et ça, on apprend ça dans les écoles de management.
Oui, mais d'accord. Mais le rôle du syndicat, c'est de recréer du lien, justement. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que tous les syndicats y arrivent, mais c'est le rôle des syndicats.
Et que ce n'est pas facile en fonction de la culture du secteur d'industrie dans lequel tu travailles.
Ça va être difficile
avec
des jeunes.
Dans tous les secteurs d'activité. Hein. De toute façon, en plus de ça, le patron, le manager, on ne va pas l'appeler le patron, ça me fait trop penser. C'est péjoratif, je trouve. Hein. Mais le manager, le N+1, en plus, il va créer une relation avec chaque salarié de façon pas intime mais très proche, tu vois. de par déjà. Non, mais tu vois, il va développer comment une. Pas une amitié, mais une affection particulière. Tu auras l'impression d'être.
Un paternaliste.
Il va créer des événements dans l'entreprise. Il va créer un coin cafétéria. Regardez des canapés, des fauteuils. Enfin, voilà, ça, c'est la tendance. Un petit baby-foot pour, entre deux. Laisse-moi finir. Tu vois ce que je veux dire. Il créera un univers qui fera que, en fait, le. Ça sera pas ton ami, mais presque, tu vois. Et puis, quand tu auras des problèmes, par exemple, pour aller chez le médecin ou aller récupérer tes gosses à l'école, ou ça, je peux partir plus tôt. Oui, non, mais il n'y a pas de problème et tout, tu vois. Donc voilà, il sera jamais contre lui, un peu. Et donc, le syndicalisme, c'est un peu la lutte des classes. Je suis désolée. On sortira jamais de là, tu vois. C'est une lutte d'intérêts, les intérêts du manager et les intérêts du salarié.
Autant il y a des traditions syndicales, qu'il y a aussi des traditions patronales. Oui. Le patronat, ça a toujours été paternaliste. Oui.
Le pas patron.
Ouais. Il n'y a pas de raison que ça perdure pas. Le problème, c'est que c'est les traditions syndicales qui perdurent pas, qui se transmettent pas.
Parce que je comprends ce que tu veux dire, parce que nous, on en parle.
Puis maintenant, tout le monde est cadre dans l'entreprise, comme ça. On ne paye pas d'heures supplémentaires,
Dans ton secteur. Mais c'est vrai que c'est un piège à con.
Mais peut-être que c'est dans d'autres secteurs aussi. En plus, le niveau monte. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, souvent, ils ont, dans chaque secteur d'activité, des bacs plus 4, 5. Tu vois, c'est plus je ne sais pas quel est le pourcentage d'ouvriers aujourd'hui en France, mais le niveau monte, quoi qu'on en dise. Et ceux qui se présentent sont des cadres, tu vois, dans les secteurs du tertiaire, par exemple.
Parce que j'en pense réellement, Martin.
Et donc, c'est plus des ouvriers, tu vois.
Ça reste des ouvriers.
Ce
ne sont pas des ouvriers, mais ils font partie de la classe ouvrière. Voilà. Ce n'est pas du lupin de prolétariat, comme tu as cité tout à l'heure. Mais ils ne sont pas détenteurs du capital. Mmh. Hein, ils ne restent pas chez eux à vivre du travail des autres. Mmh. Ils sont eux-mêmes obligés de travailler, de produire quelque chose. Même si ce n'est pas du travail ouvrier avec une clé à molette à la main. Mmh. Et puis des... Voilà.
Oui, puis ce que tu disais, on en parle souvent, c'est que le boulot, il est très difficile avec l'individualisme qui est la force motrice aujourd'hui, l'alpha et l'oméga de la culture occidentale, l'individualisme, l'auto-entrepreneuriat, l'égoïsme aussi, parce que on vit ça dans la société, mais dans les entreprises, beaucoup, hein, ça nuit énormément aux relations entre salariés, entre travailleurs, et puis ça rend tout ça très difficile, le travail, ça je suis d'accord avec toi, hein, ça rend très difficile aujourd'hui le travail des syndicalistes comme nous, parce qu'on se heurte à des cultures qui sont des cultures peut-être pas contre-syndicaliste, mais asyndicaliste. Donc, ils ne comprennent même pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... Tu vas lutter contre... Le patron, lui, est syndiqué. Tu te rappelles souvent, le patron, il adhère à un syndicat. Chez toi, comme chez nous, il adhère à des syndicats de secteur, etc. Et les mecs, ils sont bardés de juristes, de trucs et de machins. Ils ont de quoi se battre. Et ils sont formés, comme tu disais, répétais, dans toutes les boîtes, les cadres dirigeants sont formés au combat. Alors, ils sont plus ou moins efficaces, ça c'est autre chose. Mais les salariés, eux, ils préfèrent bénéficier de la modernité de la société plutôt que d'abord réaliser, parce que à mon avis, ça doit les heurter quand tu les ramènes à leurs conditions ouvrières, même si, comme tu disais, c'est vrai que c'est pas des ouvriers, mais ils ont une condition ouvrière. Tu sais, quand tu as un cadre qui est payé de 1800 balles, il pique et cadre personne, c'est un statut. C'est quoi? À 1800 balles, tu as des ouvrats qui gagnent le double. Des ouvriers hautement qualifiés.
Ah oui, non, certainement, oui, dans l'industrie.
Bah oui.
Les salaires sont plus.
Bien sûr. Ouais. Le mec qui fait ses soudures à Flamanville ou je sais pas où, le mec il a 4000 balles. Hein.
Oui, mais les patrons, ils ont aussi compris que apporter du statut à un salarié, même s'il n'a pas le fric qui va avec, la rémunération qui va avec, déjà ça les contente.
Oui.
Parce que vous me dire, je suis manager d'un magasin. Plutôt que dire, j'ai une sous-merde qui fait le boulot d'un cadre sans en avoir le salaire.
Et ça, c'est difficile. Et ça, oui, ça, c'est difficile à convaincre. C'est-à-dire que se dire qu'on va créer du lien, on va créer du collectif, on va recréer. Parce qu'aussi, le fait qu'il y ait nous, on est plus anciens, donc c'est vrai qu'on s'accroche. Hein.
On s'accroche aux branches.
Pas tous. Mais nous, en tout cas, on s'accroche. Ça accroche. Parce que c'est dur.
Parce que ça glisse. Ça glisse.
Attends, mon manager m'a dit ça. Ah, tu t'accroches, hein? Je ne croyais pas. Ah, non, mais faut en plus de ça.
Quelle délicatesse. Ah, oui,
il faut te laisser
c'est
partir.
Sans filtre. Ah, oui.
Martine.
C'est sans filtre. Peine, hein. Sans filtre. Non, mais non, mais c'est fou. Ah, maintenant, les gens sont sans filtre.
T'as glissé.
Ils te disent les choses comme ça. T'as même pas le temps de t'y attendre. Quoi. Tu te dis, mais non. Enfin, vraiment. Sans complexe, quoi, voilà. C'est fou. Hein. Dit, et puis les.
Tu veux que je glisse hein.
Puis dernièrement, c'est pas sympa. Voilà, si tu sais que là, l'année 2023 s'annonce pas très bonne, donc tu sais que l'entreprise réajuste avec les salaires, hein, t'es pas sans le savoir, donc tu vois, alors je dis oui, donc ça veut dire qu'il y aura des licenciements. Alors oui, ça veut dire ça, et les premières personnes donc, qui seront concernées seront des personnes comme toi, hein, bien sûr, comme ça, sans filtre, comme ça, ils t'annoncent ça comme ça, très bien. Voilà.
C'est le management moderne.
Vois, c'est,
Justement, dans le management, c'est vrai que.
C'est le management moderne sans filtre. Mais tu sais, c'est fou.
Du coup, pour syndiquer. Pour adhérer, pour créer du collectif, du lien, quand on est sans cesse en train de te rabaisser, te nuire, être indélicat avec toi, te mépriser, te maltraiter, ça donne, pour certains, ça donne pas envie. On peut imaginer que les jeunes, qui, comme tu dis, au bout de 2-3 ans, hop, ils vont voir ailleurs parce qu'ils ont plein de choses à prouver, à se prouver, etc., qui sont pas forcément, puis ils sont issus des milieux où peut-être que, en tout cas, dans ton secteur, classe moyenne, donc ils veulent être aller plus loin que leurs parents, etc. etc. C'est pas facile de convaincre ces gens de se syndiquer, de militer et d'en prendre plein la gueule, parce que c'est le cas.
Surtout s'ils ont déjà des syndicats dans leur boîte et puis qu'ils voient que les syndicats. Ah, après, il y a aussi l'image des syndicats. Alors, si tu es un syndicaliste, tu n'as pas évolué, ni au niveau du salaire, ni au niveau de la position sociale, hiérarchique. Pas forcément le but pour moi, mais si tu n'évolues pas, ça incite pas les collègues aussi à. Allez, on va aller avec toi. Hein. Hein, puis c'est vrai que pour l'anecdote, j'ai un certain niveau échelon que j'ai acquis avec le temps, même pas. Bref. J'aurais changé de poste. J'ai un truc super pour vous, c'est hôtesse de caisse. Je me dis, mais ça va pas, non? Je vais pouvoir dire à mes collègues, voyez, rentrez à la CNT dans 25 ans. Si vous avez un petit peu évolué, vous allez pouvoir retourner en arrière. Là, tirer la frange.
Avec de la barbe et en jupe.
Non, mais. C'est vrai que n'empêche que ça va. Peut-être y réfléchir à deux fois, les salariés, quand ils sont confrontés à des cas comme ça. Oui. Alors, après, tu vas avoir aussi tu vas rencontrer des cas où des syndicalistes profitent de leur position. Souvent, ils sont bien vus par la direction. Hein. Je vais y aller. Je sais qu'il y aura bien qui nous écoute. Là. Je ne vais pas citer Marie-Claude, mais voilà, c'est à qui je parle.
Il y a deux, au moins deux qui sont rhabillés pour l'hiver. Ouais.
Non, mais. T'en as qui sont. Ça fait 20 ans, enfin aussi longtemps que moi, en fait, qui font du syndicalisme. Pas dans le même sens. Parce qu'il y en a une qui est proche du patron, qui a toujours défendu le patron. Et puis moi, qui ne défends pas le patron. Enfin bon, je ne fais plus grand-chose. Hein, je ne pourrais pas dire que je suis très, très actif en ce moment.
Mais c'est quoi défendre le patron?
Bah, c'est par exemple si le patron il a dépassé le délai de 15 jours pour attaquer une section syndicale, ah oui. Et bah, toi tu t'arranges avec pour que le patron il attaque à ta place. Bon, ça c'est du concret, c'est ce qui s'est passé avec moi il y a 20 ans. Ou essayer de te faire chier, ou essayer de toute façon de prendre les postes, le bureau du CSE, et puis... pas pour t'exclure, mais pas partager, oui. Voilà, puis paralyser le truc et puis faire ce que tu veux. Oui. Alors, donc, et puis profiter de ta position, effectivement, pour non pas défendre l'intérêt collectif, mais l'intérêt personnel ou de certains salariés ou de ton petit groupe. Et puis tu vas discuter directement avec la direction générale. T'arrives à l'infléchir ou quoi que ce soit, oui. Ça arrange pas la situation, vraiment. Mais tu peux arranger un ou deux salariés ou tu peux le. Ouais, bah c'est pas du syndicalisme.
Personne
alors, effectivement.
Personne ne tape dans la caisse quand même.
Hein ?
Personne ne tape dans la caisse quand même.
Si, il y a eu à une époque.
Ah oui,
il y a eu à une époque.
Ça, c'est mal, ça.
Je ne dis pas que c'est moi. C'est pas parce que je me suis acheté une Ducati après que c'était moi. Non, mais si, ben, il y a eu un moment où il y a eu un. Enfin, ouais, bref. Ça a été rare, en 27 ans maintenant, j'ai vu ça qu'une fois, mais je l'ai vu quand même. J'aurais... On vous saura, j'étais plus au CE à l'époque. ouais, ça a été... Bah, tous ceux, d'ailleurs, justement, qui avaient été mis à l'écart, je pense à mon collègue, mon collègue Mohamed, qui était... qui est devenu trésorier maintenant, mais enfin, à l'époque, il était mis un petit peu à l'écart. Ah ben non, ben vous ne toucherez pas au bureau, à la caisse, machin. Ben, il était bien content. Hein. Parce que ça s'est su, forcément. Mais bon, bref. Ouais, il y a l'image que les syndicalistes donnent. C'est ceux qui vont pour faire le sketch inconnu avec les bons syndicalistes et puis les mauvais syndicalistes. Mais enfin, il y en a qui donnent plus ou moins une bonne image. Moi, je sais pas, je donne pas une bonne image, mais visiblement, je fais peur. C'est comme ça.
Et tu fais peur.
Je sais pas, mon aspect physique, peut-être qu'il faut que je me rase et je me coupe les cheveux.
Ouais, moi, je pense qu'il faut repenser l'offre de service du syndicat. Voilà, dans son ensemble. Mais ça passe par ce qu'on m'a expliqué.
L'offre d'action.
Non, l'offre du syndicat. Qu'est-ce que offre le syndicat aujourd'hui à un adhérent, tu vois, à un salarié, lambda, qui,
des copains. Pour toujours.
Non, ça c'est pas possible. Les copains, ils en ont.
Non, mais le syndicat,
les gens n'attendent pas le syndicat pour avoir des amis, pour faire des acteurs.
Ouais, mais ça c'est pas. Si tu regardes la CNT, il y a pas ça. Hein.
En plus,
j'ai vu ça dedans.
En plus, ils ont besoin d'avoir des informations. Ils tapent sur Google. Donc, quel est le plus dans le syndicat.
Mais ça c'est pas bon non plus. Moi, j'ai pas mal de collègues qui sont allés taper. C'est peut-être la réalité, mais c'est de la merde. J'ai des collègues qui... Ben j'en ai un, tiens, qui est parti fin septembre. Il a tapé, effectivement, sur Google... Qu'est-ce que je vais pouvoir toucher à mon départ si je démissionne? Alors, je sais pas, on lui a eu dire « Oh là là, avec l'ancienneté, tu vas toucher ça. » Il a démissionné. Et après, il s'est rendu compte que non, quand tu démissionnes, tu l'as dans le fion. Tu touches rien.
Ben
et
oui.
Puis là, il a toujours pas de travail. Hein. Ah non, mais il a deux mômes quand même. Donc, il y a des mecs qui sont un petit peu abrutis. En plus, on n'est pas dans un contexte où, où on va trouver du boulot facilement. Mmh. Le mec, il a démissionné comme ça, comme un con, en espérant pouvoir trouver du boulot à La Rochelle ou je sais pas où. Et puis maintenant, il est sans rien, quoi. Mmh. Bon, je sais pas comment il vit. C'est pas mon... Mais... Ouais, donc, effectivement, et j'ai plusieurs collègues hein, comme ça qui vont sur Internet. Alors, effectivement, les salariés qui vont peut-être plus... faire appel au syndicat, ce sont les salariés issus de l'immigration, parce qu'ils ont des difficultés à lire. Des fois, ils sont idéologisés aussi. Hein. Je pense des fois à certains Sri Lankais qui sont...
C'est des
tigres tamouls. Ouais, c'est un peu exagéré, mais... Mais voilà, donc eux, ils vont quand même te demander, ils vont pas forcément adhérer, mais ils vont quand même passer par les syndicats pour avoir les informations.
Oui, alors c'est ça aussi, il y a ceux qui demandent les informations, mais qui ne s'indiquent pas non plus. Alors ça,
c'est incroyable. Alors, les salariés issus de l'immigration, moi je peux comprendre.
Je peux comprendre, mais ceux qui ne sont pas issus de l'immigration demandent des informations à toi qui es syndiqué, mais tu dois leur donner comme ça sans contrepartie. Ça, c'est pas normal non plus.
Mais ça, c'est notre rôle aussi.
C'est de dire, pas l'info, mais alors après, tu te braques tout d'un coup.
Moi, je fais pas du...
Tu fais quoi,
moi, je donne l'information.
Tout le monde fait ça.
Mais après, c'est libre à toi de dire, je te donne l'information. Si tu veux faire la même chose que moi, tu te syndiques, tu apprends. Bon, après. Mais donc, les travailleurs issus de l'immigration, c'est vrai que souvent, ils ont quitté un pays, un continent, la famille, tout le monde est resté là-bas, ou que ça soit l'Afrique ou l'Asie, et leur salaire en France, ça peut payer aussi la survie de quand même de plusieurs personnes. Donc c'est vrai que là, tu vas pas risquer de te faire. Alors en général, les mecs, ils font 35 heures dans une boîte et puis ils font des heures en plus dans la restauration, dans le commerce, plus des heures. Et quand ils sous-louent pas leur appartement à d'autres, parce que comme ils sont tout le temps en train de bosser, ils sont pas dedans, donc ils peuvent le sous-louer. Le but, c'est de faire de l'argent pour faire vivre la famille aussi. Je dis pas que c'est bien, hein. C'est une réalité.
Non, mais
voilà. Donc, c'est vrai que quand tu fais déjà deux boulots, qu'est-ce que tu vas aller pour de l'argent, comment tu vas t'investir pour dans le syndicalisme? C'est un peu difficile. Alors, tu peux te syndiquer, mais effectivement, tu vas pas aller dans les syndicats autogestionnaires où il faut que tu fasses des congrès, des réunions, des trucs. Ça, je peux le comprendre aussi. Tu te barres pas de l'autre bout du monde pour venir faire le guignol à Paris.
J'ai du mal à trouver des arguments pour fédérer.
Mais il y a quand même des travailleurs immigrés, qui font des manifs. Il y en a eu, qui étaient du secteur de la restauration. On en a connu. Enfin, moi, j'en ai connu, même qui étaient de. Je travaillais chez Monoprix, connu, et qui sont venus faire les manifs. Que ce soit libertaire ou. Donc du 1er mai, ou. D'autres manifs de solidarité. Voilà, ça existe aussi. Faut pas croire que tous les. Ils se battent aussi. Et ils vont se battre d'autant plus qu'à un moment, ils prennent conscience qu'ils sont vraiment exploités parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue du pays dans lequel ils sont. La langue écrite, en tout cas.
Ils ne maîtrisent pas les droits. L'environnement culturel, tu sais, globalement, la langue, le droit, les us, enfin plein de choses qui font que ça les met en marge.
Là, ça ferait presque une émission en soi.
Ah oui.
Peut-être qu'on va se passer.
Oui, c'est vrai. Ça serait peut-être intéressant de savoir dans les 8% de syndicats en France, le pourcentage de personnes, comme tu dis.
Ils sont d'immigration.
C'est l'immigration, parce que c'est.
Je pense que c'est eux qui font peut-être le plus de. Voilà. À part dans le public, mais dans le privé, je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs immigrés. Hein.
Parce que moi, j'ai quand même fait un. Alors, je ne sais pas si c'est l'occasion d'en parler là. Une recherche pour connaître le taux de syndicalisation dans les autres pays de l'Union européenne, en Europe. Et des chiffres quand même impressionnants. Hein. Les Scandinaves arrivent en tête, les trois premières classes, 74% en Finlande. Non, mais ça va aller vite. Suède, 70%, Danemark, 67%, Norvège, 52%, Croatie, 35%, Slovénie, 26%, Allemagne, 18%, Espagne, 19%. Et nous, on arrive à 8%. Il faut quand même se poser des questions. Quelle est notre offre? Alors, quelle est leur offre à eux? La principale des offres, de l'offre. Ça t'embête que je parle de ça?
Ben oui, c'est la faute.
D'accord. c'est la refonte du syndicat, de l'offre du syndicat, en fait. Eux, ça passe par si tu bénéficies du syndicat, c'est parce que tu y adhères. Si tu y adhères pas, tu en bénéficies pas.
C'est un autre fonctionnement.
Voilà. Ben oui, mais alors on n'arrivera jamais à faire masse.
Alors,
tant que ce sera comme ça.
Moi, ce que je vous propose, parce que j'ai un peu de biscuit là-dessus.
Oui.
C'était l'objet d'une deuxième partie, effectivement. Ça pourrait être lié. À la refonte du syndicalisme avec les deux options, une option plutôt SOSDEM, c'est un peu ce qui se passe dans les pays que tu as cités, et puis une option syndicaliste révolutionnaire, mais ça on va en parler dans une autre émission.
Eh ben, faire la coupure avec Jean-Angé Cossimon. On va faire la transition après. Les annonces militantes.
Le voyage est bien long, de la nuit jusqu'à la lumière. Le voyage est bien long, peut-être n'est-il pas fini. Quand tout a commencé, des seigneurs chassés sur leur terre. Quand tout a commencé, des nobles dansaient à la cour. À chasser et danser, quand d'autres crèvent de misère. À chasser et danser, tout ça devait finir un jour. Le voyage est bien long, de la nuit jusqu'à la lumière. voyage est bien long. Peut-être n'est-il pas fini. Des hommes ont écrit sans la liberté point de vie. Des hommes ont écrit, nous exigeons l'égalité. Et tu verras tes fils, chère et douce mère patrie. Et tu verras tes fils unis dans la fraternité. Le voyage est bien long, de la nuit jusqu'à la lumière. Le voyage est bien long. Peut-être n'est-il pas fini. Qui sème le chagrin, un jour fait germer la révolte. Qui sème le chagrin, un jour devra rendre raison. Qui sème le bon grain, ne fait pas toujours la récolte. Qui sème le bon grain, est loin, quand revient la moisson. Le voyage est bien long. De la nuit jusqu'à la lumière. Le voyage est bien long. Peut-être n'est-il pas fini. Tous ceux qui ont dit non à l'esclavage, à la justice. Tous ceux qui ont dit non dans le temps sont ensevelis. À défaut de leur nom sur le marbre du sacrifice. À défaut de leur nom qu'ils soient préservé de l'oubli. Le voyage est bien long, de la nuit jusqu'à la lumière. Le voyage est bien long, peut-être n'est-il pas fini. Le voyage est bien long, de la nuit jusqu'à la lumière.
Voilà, c'était en pleine période punk Jean-Roger Caussimon qui nous assure que le voyage est bien long, de l'ombre à la lumière, encore faut-il vouloir ouvrir les yeux. Voilà, jeunes gens qui voulaient vous syndiquer. Alors, le voyage sera très très long.
Oui, très long, très long, très pénible aussi. Les annonces militantes. Les annonces militantes.
Mais les annonces militantes.
Alors, on revient sur que Crève, Carrefour et ses mondes. Donc, c'est le collectif de défense des inculpés de l'autoréduction du 30 janvier 2021. Donc, qui appelle à
voilà, c'était les camarades qu'on avait reçus des brigades populaires de solidarité qui avaient déjà lancé, on avait déjà lancé l'appel à l'époque. On rappelle cet appel. Mmh. C'est contre Carrefour qui demande de grosses indemnités à
des militants.
À des militants qui ont fait de l'autoréduction. Mmh. Donc, si vous avez plusieurs manières, méthodes pour, si vous pouvez innover ou sinon protester contre les méthodes de Carrefour.
Organiser une soirée d'information publique avec ou sans discussion sur les autoréductions. Vous pouvez appeler le siège de Carrefour en permanence. Vous pouvez même appeler Elodie Blinck, la responsable du siège de Massy, qui nous connaît bien. Je parle au nom des camarades. Sur son portable professionnel 06 38 51 63 84, vous pouvez lui écrire Elodie-8-Blinck, B-L-E-I-N-C, @carrefour.com et puis toutes sortes d'actions qui mettront Carrefour en difficulté.
Voilà. Moi, je vous annonce que l'éco-syndical numéro 5 est sorti récemment. On va pouvoir faire le détail, on le fera une autre fois, mais vous pouvez vous le procurer auprès du bureau régional de la CNT, br.rp@cnt-f.org. Vous allez sur le site de la CNT, vous allez trouver et. Ou sinon, vous passez lors des permanences qui sont toujours le lundi à partir de 14h, le mercredi, je ne sais plus, et le samedi pour le sub, c'est 10-12, semble-t-il. Mais enfin, en tout cas, à partir de 14h le lundi après-midi, voilà, vous trouverez les copains. Et là, vous pourrez vous procurer auprès du service des éditions CNT, enfin du service librairie, notamment un exemplaire papier de l'éco-syndical numéro 5 qui vient tout juste de sortir.
Fête du livre CNT les 26 et 27 novembre prochains, de 14 à 18 heures. 33 rue des Vignoles, Paris 20e. Donc des livres du neuf, de l'occasion. Tous les genres, tous les supports, à des prix, prix neuf, des prix sympas, des prix entrée libre.
Voilà, et le dimanche 11 décembre 2022, à partir de 15h au 33 rue des Vignoles, donc au siège de la CNT à Paris 20e, l'atelier culture populaire propose un colloque avec Julian Vadillo Munoz et François Guinchard, qui sont historiens tous deux, sur l'Association internationale des travailleurs, puisque l'AIT aura fêtera ses 20 ans le 11 décembre.
Les 20 ans?
Les?
Les 20 ans?
Non, les 100 ans de sa création, pardon. Voilà, la naissance d'une internationale anti-autoritaire. Voilà, donc c'est au 33 rue des Vignoles, le 11 décembre, à partir de... Le dimanche 11 décembre, à partir de 15h. J'en ai d'autres. Si vous aimez la compagnie Jolie Môme, depuis le 18 décembre, 18 novembre et jusqu'au 18 décembre, vous pourrez assister à la Maladie Blanche, voilà, à la Belle Étoile. Donc, sur un texte, intégral écrit en 1937 par Karel Capek. Je ne sais pas, je suis pas sûr. Karel, ça doit se prononcer comme ça, mais Capek, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a des petits. C'est quoi? C'est du tchèque. Voilà, je passe à Eric les infos, il va pouvoir nous dire. C'est pas grave. Bon, donc, bref, Capek. Vous allez.
Voilà. Capek.
Et voilà, le plein tarif c'est 20 euros, 13 euros le tarif réduit, les vendredis et samedis à 20h30, les dimanches à 16h. Mais bon, allez sur le site quand même, et puis vous pourrez faire un don et tout un tas de choses comme ça pour aider la compagnie Jolie Môme. Moi je voulais citer, alors je sais pas, je connais pas, j'ai trouvé... Peut-être que vous connaissez Ivan ou pas, c'est un compagnon anarchiste, individualiste, hein, visiblement, qui a dû, apparemment, qui est accusé, d'avoir foutu le feu à des voitures relevant de l'État, hein, ou de l'administration, et qui est incarcéré. Quand j'ai pris les infos, il faisait la grève de la faim. En solidarité, un autre camarade italien, semble-t-il, qui lui est en isolement dur, sec, sévère, et qui est lui-même en grève de la faim. Donc, Yvan nous fait une grève de la faim de solidarité. Et vous pouvez, pouvez lui écrire. Donc, c'est Yvan Aloco. A-L-O-2-C-O, c'est son nom. Numéro d'écrou 46-355. La maison d'arrêt de Villepinte, 40 avenue Vauban, 93-420 Villepinte. Voilà, pour lui écrire, pour le soutenir dans son combat. Et puis, on repassera l'info. Des camarades qui font des... Bon, on va pas dire que c'est bien, parce qu'on va pas créer de problème à Radio Libertaire. Mais bon, c'est dans mes... Il aurait fallu qu'on se voit avant, camarade. T'aurais pas fait ça tout seul.
Et puis, à la fin de la fin, ça aurait pas fait peur. Hein.
Avec mon t-shirt Snoopy, on arrêtait bien. On arrive à la fin de notre émission. La semaine prochaine, dans 15 jours, on fait... nous-mêmes, on va faire une émission. Donc, ce sera le 5 décembre. Une émission consacrée aux 100 ans de l'AIT. N'est-ce pas?
Oui.
Et donc on se retrouve le 5 décembre. On va laisser la place au Protons Rebif, Jean-Manuel, Christiane et Lulu. Et puis on va lancer le Bénédicte. Alors on remercie Martine d'être venue.
Merci.
Voilà, même si je ne t'ai pas toujours laissé parler comme il faut. Eric, qui ne laissé parler personne. Et Bénédicte qui a assuré la technique et qui nous lance tout de suite le générique. Salut et on se retrouve le 5 décembre pour les 100 ans de l'AIT.
Vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant, flirté avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et là...
cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux...
C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
You've seen, we understand. We know what you mean. We know what you've seen. We understand.
Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.